le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Huitième numéro du temps d'une chanson. Nous allons remonter le temps en compagnie des paroliers, des musiciens et interprètes des chansons françaises de légende. Gaston Palevski est nommé président du Conseil constitutionnel. Inauguration de l'Institut de cancérologie de Villejuif. André Courrèges lance la mini-jupe en France. Reprise en main de l'Union des étudiants communistes par le PCF à l'occasion de son 8e congrès. Entrée en vigueur de la réforme liturgique promulguée le 4 décembre 1963. À la messe, le français remplace le latin, conséquence directe du Concile Vatican II. Présentation de la Renault 16 au public au salon de Genève, c'est la première voiture de série munie d'un haillon. Élection municipale favorable à l'opposition, France Gall est à l'Eurovision. Sortie du film franco-italo-espagnol Le Corneau, réalisé par Gérard Houry avec Bourvil et Louis de Funès. En mars 1965, les Américains interviennent militairement au Vietnam.
En 1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19.
C'était quoi ça, la voix d'Yves Rosé pour... Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce mois-là, de cette année-là? Le conflit a commencé avant ou ça a commencé?
C'est-à-dire que les Américains sont présents sur place, mais ce sont surtout des formateurs militaires qui sont là. Ils ne sont pas sur le terrain du combat. Et à partir de ce mois de mars 1965, le président des États-Unis, qui n'est autre que Lyndon Johnson, donc, vous savez, c'était l'ancien vice-président de Kennedy, assassinat de Kennedy en 63, il devient président des États-Unis. Et quand il entre à la Maison-Blanche, il le dit, et il le dit et il le répète, aucun boys américain n'ira... n'ira sur le terrain au Vietnam. Aucun. Il le dit encore en 63.
Le conflit 64. N'avait pas commencé du temps du président Kennedy.
Alors, si, le conflit avait. Alors, encore une fois, c'était, les Américains n'étaient pas entièrement présents sur place. Il y avait 8 000 hommes, dont beaucoup de formateurs militaires. Et c'est vrai que ça avait été un appel au secours lancé par le Sud-Vietnam au président Kennedy en disant venez nous aider, on ne s'en sort pas avec les communistes venus du Nord. Puisque vous savez que le pays avait été séparé en deux après le départ des Français, et le Nord évidemment était allié aux communistes de l'Union soviétique et surtout de Chine, et puis le Sud
tentait d'envahir le Sud.
Absolument. Et le Sud, avec les Américains, avait appelé à l'aide, vous avez raison de le rappeler, auprès du président Kennedy, jusqu'à ce que Lyndon Johnson décide d'envoyer des troupes. Nous sommes au mois de mars. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Il y a d'abord une attaque maritime, deux lance-torpilles très exactement, qui attaquent un navire américain. Le navire américain se trouve en dehors des eaux territoriales du Nord-Vietnam. Mais immédiatement, les porte-avions lancent leurs bombardiers et vont bombarder Hanoï et la région du Nord-Vietnam. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le jeu de quilles, quoi. C'est l'enchaînement.
Et domino.
Le Viet Cong au sud va attaquer les bases américaines. Ils sont 15 000, ces Américains, en 1963-64, et ils vont venir jusqu'à 540 000 hommes en 1969, un demi-million d'hommes.
En 4 ans, quoi.
En 4 ans, absolument. La progression est absolument fulgurante, puisqu'ils sont 15 000, 16 000 l'année suivante, 60 000 en 1965, 260 000 en 66, et ça ne va cesser de progresser jusqu'à 69, après quoi ça commencera à diminuer jusqu'en 1972.
À Naples, le 20 mars, France Gall remporte le concours Eurovision de la chanson 1965 avec la chanson Poupée de cire, poupée de son.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Poupée de cire, poupée de son est une chanson française écrite et composée en 1965 par Serge Gainsbourg, vraisemblablement d'après le quatrième mouvement prestissimo de la sonate pour piano numéro 1 en fa mineur, opus 2-1 de Beethoven. Écrite pour France Gall, qui représentait le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson en 1965 à l'initiative de Mariti et Gilbert Carpentier, la chanson obtient le Grand Prix. C'est la seconde victoire du Luxembourg à ce concours. Elle est intégralement interprétée en français, une des langues officielles du Luxembourg, comme le voulait la coutume avant 1966. Cette troisième œuvre écrite pour France Gall par Serge Gainsbourg est métaphorique, sans être compliquée, grâce à la fluidité de son texte. Serge Gainsbourg synthétise plusieurs histoires, dont deux plutôt techniques. Celle du disque, en se référant à la cire, un matériau composant le cylindre phonographique, ancêtre du disque, qui pour la première fois permit de graver le son et même le son tout court. Celle de la poupée, les poupées anciennes du XVIIIe siècle avec leur tête de cire. Leur corps pouvait être réalisé avec des coussinets rembourrés de matériaux divers, comme le son issu de graines de céréales communes telles le blé ou de la sciure de bois. Si l'un des inconvénients de la cire est de fondre lorsqu'elle est soumise à une forte chaleur comme celle des garçons, en revanche, un son, et surtout le son, si dématérialisé qu'il soit, peut rester gravé dans nos neurones pour toujours, comme en témoigne Patrice Delbourg. Nous n'avions pas 20 ans quand Poupée de cire, poupée de son triomphait à l'Eurovision. Une des choses qui nous marque son bonhomme, mieux qu'un cours de droit romain ou la lecture de Teilhard de Chardin. Serge Gainsbourg s'intéresse alors au cas de cette chanteuse paradoxale qui chante ce qu'elle ne vit pas, mais déclare « Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son ». La chanson est différemment perçue. Lucien Henriou écrit « Serge Gainsbourg offre une chanson qui n'est qu'un portrait froid, presque clinique de l'idole », alors que Hugues Royer et Philippe Séguy notent « un bien joli cadeau qu'il fait à la France ». Oserait-on écrire un cadeau empoisonné ? En effet, Serge n'hésite pas à présenter la jeune interprète comme un pantin sans âme dont d'autres tirent les ficelles. France Gall, l'ex-poupée, se souvient de cette période où elle était très mal dans sa peau. À 20 ans, j'étais encore tout à fait bébé. À cette époque, j'avais très peur des garçons et cette chanson me ressemblait très fort. J'avais la désagréable sensation d'être vendu à longueur de journée comme un produit. Spectatrice de ma vie, je faisais une totale confiance à ceux qui m'entouraient, me dirigeaient. Je ne disais rien, j'apprenais, et c'est comme ça que j'ai su un jour que je ne voulais plus faire ce métier tel qu'on le concevait pour moi. Et puis cet univers de musique est très agressif, on déclenche chez les gens des haines et des jalousies difficiles à supporter, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Ce n'est pas étonnant que cette poupée, à l'écart des réalités, voit la vie en rose bonbon et ne puisse aller que d'étonnement en étonnement. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. France Gall l'ignore à ce moment-là, mais le meilleur reste à venir. À l'instar de Pinocchio, célèbre poupée de bois, celle de cire et de son se transformera en être de chair et de sang pour chanter sa vie suivant la prophétie de Serge Gainsbourg. Mais un jour, je vivrai mes chansons sans craindre la chaleur des garçons. Dans l'émission « C'est votre vie » que lui a consacré France 2 le samedi 26 septembre 2015, France Gall va jusqu'à dire que le garçon avec qui elle sortait à l'époque a rompu au téléphone pendant une communication effectuée entre sa prestation et les résultats du concours. Aussi, si on me voit les larmes aux yeux lors de la seconde interprétation de la chanson, ce n'est pas parce que je venais de gagner, mais parce que je venais de me faire quitter. Louis Nucera, alors attaché de presse de la maison de disques, je me souviens qu'à l'époque, France Gall était avec Claude François et qu'il a été cruel avec elle. Quand elle a gagné, elle l'a appelé au téléphone, mais lui en a pris ombrage. Il lui a parlé rudement et elle est tombée dans mes bras en sanglotant. Gilles Verlan précise que c'était pire que ça. Clo-Clo, son fiancé secret, au lieu de la féliciter, se met à hurler dans le combiné « Tu as chanté faux, tu étais nul !» France Gall confie encore à Gilles Verlan pour Gainsbourg, je me souviens d'un garçon assez timide. Il chantait très doucement et jouait avec deux doigts. J'aimais les mots et le style de Gainsbourg. Il était le plus moderne. Je chantais ses chansons avec plus de plaisir que les autres. Chaque fois, il m'apportait la chanson du disque que je préférais. En tout cas, Serge Gainsbourg allait devenir un compositeur qui compte dans la chanson française. Nous l'écoutons, c'était en 1964, l'année précédant le concours de l'Eurovision. 1965 qui allait en quelque sorte révéler son talent, sa science de l'arrangement, à travers la chanson de France Gall.
Le temps d'une chanson, un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Si l'on demande à Serge Gainsbourg qu'y a-t-il de changé dans votre vie, il vous dira, eh bien depuis 5 ou 6 ans, je continue à aller au Milan Larsouille, mais au début, j'accompagnais et je passais en début de programme, et maintenant je passe à la fin.
Mais alors là, on n'a plus de responsabilité, hein. Oh là là, ça change tout. Parce qu'avant, les places vides, on peut les attribuer à qui
aux
nous,
autres.
Qui nous suit, oui. Tandis que là,
on se dit, c'est moi.
C'est moi, oui.
Pourtant, je me souviens de vos débuts, il y a donc 5 ans à peu près, quand vous apportiez cette forme de chanson qui paraissait, ça continue à paraître très insolite, et je me, oui, me souviens juste de cette apparition curieusement éclairée, et où vous aviez une sorte d'ignorance épouvantée du public. C'est-à-dire que vous regardiez absolument par-dessus toutes nos têtes, et puis vous chantiez. Vous vous
souvenez ? J'étais fasciné par le projecteur.
C'est ça. On avait l'impression que vous étiez fasciné, que vous ne voyiez rien. Que cette lumière.
Je ne vois toujours rien, parce que quand je regarde la gueule des gens...
Vous ne pouvez pas chanter.
Si, mais il y a certains individus qui on n'aimerait pas dire... Enfin, balancer
faire des confidences.
Oui, c'est ça. Voilà.
Alors, vous choisissez une fois pour toutes le projecteur.
Non, alors, je regarde si j'ai une jolie femme.
Que vous devinez.
Oui, alors là, je me dis, ça peut aller. Je chantais pour elle.
Quand je disais que vos chansons étaient insolites, ça, Dieu merci, elles le sont restées.
Elles le sont restées, oui.
C'est peut-être parce que le personnage qui les compose est lui-même plutôt insolite.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, insolite?
Vous pourriez me l'expliquer, vous m'avez l'air d'être...
Insolite, on dit, ah, oh, tiens, c'est bizarre, j'aurais pas pensé.
C'est peut-être ça, justement.
Et on dit c'est insolite, mais insolite, c'est prendre les choses et les regarder d'un peu de traviole, quoi. C'est tout.
Prendre un angle de vue assez
inhabituel,
particulier.
Inhabituel, mais ne pas mais voir les choses comme elles sont.
Il y a peut-être des vérités à plusieurs facettes, non?
Oui, oh ben là, on en a pour des heures.
Oui, on en a pour des heures. Alors, pendant que nous allons continuer à y réfléchir l'un et l'autre, je crois qu'il y a un disque de vous qui est en train de sortir, si ça n'est fait.
Oui.
Et il se trouve qu'il s'appelle Gainsbourg Percussions. De là à imaginer que vous vous êtes servi des percussions.
Oui, des percussions africaines. Ce sont des blancs qui jouent. Hein. Je pourrais bluffer et puis dire que ce sont des noirs, comme les gens pourraient le croire, mais... Je serais amené à le croire, mais c'est pas vrai, ce sont des blancs.
Il y a donc ces percussions, des chœurs...
Des chœurs et moi. Donc ça fait une trilogie qui est assez amusante.
Vous entendez peut-être un peu de bruit, c'est parce qu'en parlant, il remue le cendrier sur la table, ou bien le petit crabe d'argent, ou encore la pomme et l'araignée. Vous avez du goût pour les objets d'argent. Il y a un oiseau de la sagesse là-bas qui nous guette sur le piano.
Ah oui, c'est juste.
Un autre oiseau de la sagesse qui nous guette sur le haut-parleur. Vous avez aussi une collection de petits soldats.
C'est la relève de la garde à Buckingham Palace.
Ici, on est chez vous. Chez vous, on est à un pas de la Madeleine, en plein cœur de Paris.
Oui, on voit même le Palais Garnier.
Et on voit du
ciel. Un ange du Palais Garnier.
Puisque vous êtes au dernier étage, ou presque. Il y a longtemps que vous êtes posé là, comme l'oiseau sur la branche.
Ah non.
Tout à l'heure, une très jolie femme a traversé cette pièce. N'allez rien imaginer, c'est Madame Gainsbourg. Ce qui fait que je sais que vous êtes mariée. Il y a longtemps?
Un an.
Est-ce que votre mariage a modifié votre façon de parler d'amour dans les chansons?
Oui, un peu.
Un peu?
Un peu plus désinvolte, plus... moins cynique.
Ah, vous êtes moins cynique?
Oui.
C'est la part du mariage?
Non, c'est la part de l'âge.
Quel genre de garçon étiez-vous à 10-11 ans?
Un petit garçon bien sage.
Oui, mais qui n'en pensait pas moins.
Qui n'en pensait pas moins. J'ai fait analyser mon écriture et on m'a dit une chose exacte, c'est que j'étais un petit garçon bien sage et qu'un jour, un vent de révolte est passé par là et j'ai mis les voiles.
Il se trouve que ce vent de révolte était aussi un vent de poésie.
Si on veut. Ne parlons pas trop de poésie dans la chanson. Voulez-vous?
Oh, ce que vous êtes toujours en train de vous méfier de vous-même.
Non, pas du tout, mais poésie. Oh, la poésie se lit avec les yeux et puis dans le silence, je crois.
Ça ne peut pas chanter?
Non, je crois pas. La preuve,
oui.
J'ai emprunté à des messieurs qui ne sont plus là,
oui.
Comme Baudelaire et
consorts. C'était ce à quoi je pensais.
Des poèmes, eh bien, ça fait de très mauvaises chansons, tout ça. Alors je les ai remis dans leurs livres et mes chansons sont oubliées.
Juin 1986. Suppression de l'autorisation administrative de licenciement. Attentat contre un disquaire de Draguignan qui vendait des billets d'un concert de SOS Racisme, revendiqué par les commandos de France contre l'invasion maghrébine. Concert de SOS Racisme, place de la Bastille à Paris, devant 100 000 personnes. Mort de Coluche, le 19 juin 1986, dans un accident de moto à Opio. Jeanne Calment devient la doyenne des Français le 20 juin 1986. L'amour à la plage est une chanson sortie en 1986.
Yeah.
L'amour à la plage est une chanson du groupe français Niagara. Initialement sortie en single en mai 1986, elle apparaît sur leur premier album, Encore un dernier baiser, paru en automne de la même année. La chanson est écrite et composée par Muriel Moreno, tout comme Les Amants, chanson de la face B du single. Le refrain est dérivé d'un air du Don Quichotte de Jules Massenet, acte 5, La mort de Don Quichotte, et Que ton cœur si doux plane dans les clartés, et Que ton cœur si doux, c'est l'amour à la plage, suivi de Plane dans les clartés et Mes yeux dans tes yeux. La chanson est l'un des tubes de l'été 1986 et devient le plus grand succès commercial du groupe. Son clip vidéo, à base de pellicule Super 8, permet au groupe de se démarquer par son originalité. Muriel Moreno, nom de scène de Muriel Laporte, née le 24 janvier 1963 à Chinon, Indre-et-Loire, est une chanteuse, autrice, compositrice, productrice et DJ française, connue pour avoir été la chanteuse du groupe Niagara entre 1984 et 1993. Après des réalisations mineures, Muriel Moreno met un terme à sa carrière musicale en 2010. Depuis 2010, elle a cessé son activité de DJ pour se lancer dans le fitness, suivant une formation à l'Institut des métiers de la forme pour devenir professeur de yoga et d'exercice corporel, méthode Pilates, exerçant dans plusieurs clubs de Paris et de sa région. La lutte contre le racisme s'affirme en 1988 avec la fête des potes à Vincennes.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Une semaine après le concert anti-apartheid de Wembley, SOS Racisme entend dénoncer lui aussi l'apartheid et le racisme sous toutes ses formes. Les chanteurs et les groupes ont choisi trois continents, l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. SOS Racisme devient donc international. Le concert européen a lieu à Vincennes. Agnès Poirier l'a suivi pour nous.
Contre l'apartheid et contre le racisme. Johnny Clegg et son groupe, Savuka, ont donné le ton ce soir. Rendez-vous traditionnel des potes, mais plus que jamais, il y a urgence.
Y être là, avec des centaines de milliers de jeunes, chanter contre le racisme, c'est plus qu'une joie, c'est un devoir.
Le Pen, il fait sa fête à Marseille. Nous, on l'a fait à Paris. C'est pour montrer que les antiracistes sont plus nombreux que ceux qui sont pour l'exclusion.
S'il n'y avait pas SOS Racisme, ça serait grave quand même.
Et Guy Bedos, ami de longue date d'SOS, a décidé de s'engager encore plus.
Peut-être que certaines alliances marseillaises et d'autres combinazioni récentes ne sont pas tout à fait étrangères à cette évolution. Oui.
À Paris, les artistes se succèdent. À Dakar, au même moment, Youssou N'Dour chante l'Afrique. Car ce soir, le melting pot est international. Dakar, New York, Paris, le triangle de la traite des Noirs est devenu celui de la solidarité.
Ce qu'on a toujours prôné, mais c'est surtout peut-être l'internationalisation des SOS Racisme, au sens où c'est toute une génération en France et dans d'autres pays qui sont soulevés depuis quelques années, qui ont bougé.
Ziggy Marley, le fils de Bob Marley, monte sur scène. Viendront ensuite Morricante, Relema, mais aussi Barbara ou Indochine. Et une surprise, Bruce Springsteen. Et il para de la solidarité, mais aussi des évanouissements. On a battu, ce soir, tous les records.
Ville de Lumière est une chanson de 1986, interprétée par le groupe français Gold.
Let's
sorti comme deuxième single de l'album Calicoba. La chanson, qui rend hommage à la ville de Beyrouth, atteint la deuxième place du top 50 à partir d'août 1986 et s'est vendue à plus de 700 000 exemplaires. Elle a été certifiée disque d'or par le syndicat national de l'édition phonographique. La chanson est un hommage à la ville de Beyrouth, au Liban, ravagée par la guerre civile. Le clip vidéo de la chanson, assez explicite, présente l'évasion d'un prisonnier, interprété par le chanteur de Gold, Émile Vandelmer. Cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour un nouveau périple en chanson à travers l'histoire. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.